Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Et à la une, l'entrée en vigueur ce matin du pass vaccinal.
Obligatoire pour toutes les personnes âgées de plus de 16 ans. Concrètement, à partir d'aujourd'hui, un test négatif ne sera plus suffisant pour se rendre dans les lieux où l'on demandait le pass sanitaire. Il faudra être à jour de vaccin pour se rendre au cinéma, à la salle de sport, dans des foires, des salons et bien sûr pour fréquenter bars et restaurants. D'ailleurs, ces établissements sont désormais en droit de vous demander une pièce d'identité en cas de doute. Une procédure qui n'enchante guère ce patron d'un petit bistrot lyonnais. Reportage signé Raphaël Vantard.
Le tablier autour de la taille Olivier Canal prépare ses tabliers de sapeur et ses quenelles de brochet. À côté du comptoir d'entrée, le téléphone scanner est prêt, mais le chef de ce bouchon lyonnais prévient, pas question pour lui de demander au client une pièce d'identité, même si désormais, la loi lui donne cette possibilité.
Si on a un pass, un monsieur, il y a un nom de dame, là on va se dire, hey, Kiki, tu exagères. Donc moi je vais les accueillir, je vais jouer sur la confiance, ils vont me montrer leur passe, je vais leur faire confiance, je vais pas aller jusqu'à le contrôle d'identité, c'est pas mon métier. J'en ai pas l'autorité, ça veut dire quoi? Que demain je vais aller dans la rue, je vais arrêter les gens, Non, c'est pas mon métier.
Les clients se montrent aussi très réticents face à cette nouvelle prérogative. Avner, jeune homme de 30 ans, n'a pas de difficulté à sortir un passe sanitaire ou vaccinal à la table d'un restaurant, mais montrer une pièce d'identité en revanche, le choque beaucoup plus.
Leur rôle à eux, c'est de tenir leur restaurant, de faire leur travail, de créer un bon moment pour les clients.
Vous la montrerez votre pièce d'identité si un restaurateur vous la demande?
Non. Moi, ça me gênerait, ouais. Dans la vie de tous les jours, pour aller au resto, au cinéma et devoir montrer ma pièce d'identité, non.
Certains clients préviennent déjà, ils n'hésiteront pas à quitter les restaurants où une pièce d'identité serait exigée avec le pass vaccinal.
Un reportage signé Raphaël Vantard. Et alors que ce pass vaccinal entre en vigueur, cette nouvelle agression d'un élu En Marche, Romain Gros, violemment pris à partie à Perpignan, c'était samedi.
Tu l'as voté le pass,
lui crie l'un des manifestants. À mort, hurle un autre. La scène a été filmée, le député a porté plainte.
Et puis ce matin, cette petite phrase qui suscite énormément d'espoir.
Oui, d'abord parce qu'elle émane de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui depuis 2 ans a rarement fait preuve d'optimisme en ce qui concerne le virus. Or, cette fois, son directeur pour l'Europe l'affirme, l'épidémie pourrait avoir disparu du continent d'ici quelques mois. Et cela, Virginie Garin, grâce à ce variant Omicron.
Oui, le variant pourrait avoir contaminé 60% des Européens d'ici mars. Ajoutez à cela la vaccination. Une fois la vague terminée, il y aura pendant quelques semaines ou mois une immunité globale en Europe, estime l'OMS. Bref, on devrait passer un été à peu près normal. Mais l'Organisation mondiale reste prudente. Ce virus peut réserver des surprises, même si plus de la moitié de la planète est aujourd'hui complètement vaccinée. Il y a des régions du monde, comme l'Asie, où il continue de progresser fortement. En fait, le Covid pourrait devenir comme la grippe, un virus qui mute un peu chaque année, qu'on pourrait gérer grâce aux médicaments et en vaccinant les plus fragiles.
Merci Virginie Garin. À retenir dans l'actualité de ce lundi, ce tollé général contre un chirurgien de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, qui a tenté de vendre sur un site d'enchères en ligne la radio d'une blessée de l'attaque du Bataclan qu'il avait lui-même opérée. C'est Mediapart qui a révélé l'histoire. Un acte scandaleux, a jugé Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris, qui annonce saisir la justice. Cette grosse frayeur, vendredi soir, pour les passagers d'un vol Air France Paris-Perpignan. L'appareil a dû faire demi-tour après qu'un des deux moteurs a pris feu. Une scène à laquelle Johan, 49 ans, a assisté depuis son hublot. Écoutez-le raconter son angoisse à Aurélien Valarier.
L'avion s'est mis à trembler de plus en plus fort jusqu'au moment où on a entendu des explosions et puis des flammes qui sortaient du réacteur droit. C'était impressionnant, c'était entre pas loin des 2 mètres, quoi. C'est là où on se pose des questions, hein. Dernier appel à sa femme, c'est pas possible, je vais pas mourir maintenant quand même, ce serait trop con, enfin des trucs comme ça, quoi. On a senti vraiment que les gens étaient morts de peur et puis les stewards n'étaient pas franchement non plus rassurés. Moi, ils m'avaient donné comme consigne, comme j'étais au dernier rang de l'avion, en cas d'atterrissage d'urgence, de bloquer les passagers le temps qu'ils déploient les toboggans pour que ça se fasse tranquillement. Et moi, j'étais prêt à, j'aurais obéi au doigt et à l'œil. Puis c'est vrai qu'on n'est pas rassuré du tout quand on entend ce genre de consigne. On a l'impression vraiment d'être dans un cercueil volant.
Le pilote a finalement réussi à faire demi-tour et à poser l'avion. C'est le réacteur qui a pris feu suite à une panne. Un accident, heureusement, très rare.
RTL 8h05, l'armée française une nouvelle fois endeuillée au Mali ce week-end.
Il s'appelait Alexandre Martin, il n'avait que 24 ans. Il est le 53e soldat français tué depuis le début de l'opération Barkhane. Avec nous en studio, Julien Fautra, bonjour.
Bonjour.
Revenons d'abord avec vous sur les circonstances de la mort de ce jeune soldat samedi.
Il était environ 17h samedi. La base française à Gao est attaquée à l'obus de mortier. Une dizaine lancée à une distance de 5-6 km. Alexandre Martin en a été la victime. 9 autres soldats ont été blessés. Cette base est située près d'un plateau, le plateau de Batal. Les patrouilles de soldats y font des rondes presque quotidiennement avec des vols de drones et souvent ils trouvent des lanceurs dissimulés.
Ça veut dire, Julien, que les djihadistes sont toujours actifs.
Oui, c'est la question du bilan de Barkhane. La France est militairement présente depuis 9 ans. De nombreux chefs djihadistes ont été exécutés, mais des groupes affiliés à Al-Qaïda ont conservé un fort pouvoir de nuisance.
On sait que les relations entre la France et le Mali sont de plus en plus compliquées depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé le départ de nos soldats. Le Mali est-il encore aujourd'hui un partenaire pour l'armée française?
Les relations avec la junte au pouvoir sont exécrables. Dominique, une manifestation a eu lieu sur place il y a 10 jours. Des dizaines de milliers de personnes, slogan anti-français, le Premier ministre haranguant la foule vêtue d'un treillis. La junte a préféré se tourner vers le sulfureux groupe paramilitaire russe Wagner, réputé proche du Kremlin. Et c'est d'ailleurs à Wagner que des experts attribuent les fausses informations, les vidéos, même des faux journaux d'information qui circulent au Mali. Propagande russe anti-française. La France est déjà désengagée au nord du Mali. Pour Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, restez, oui, mais je cite, pas à n'importe quel prix. La Suède, deuxième force derrière la France, a décidé de faire ses valises depuis la confirmation de l'arrivée de Wagner. Une voix au sein des experts diplomatiques gagne du terrain. L'idée qu'on ne peut pas aider un pays contre son gré au risque de laisser le champ libre à la Russie dans un contexte où les relations avec Vladimir Poutine se tendent chaque jour un peu plus et sur beaucoup d'autres dossiers.
L'armée française au Mali, brigade signée ce matin. Julien Fautra, merci Julien.
Tentez de cerner vos préoccupations à quelques semaines de la présidentielle, c'est l'objectif de notre série de reportages tous les matins à 8h qui nous emmène cette semaine aux frontières de notre pays.
De l'Espagne à la Belgique, 7 jours, 7 reportages avec les correspondants de RTL. Première étape justement en Belgique ce matin où de nombreux parents décident, faute de place en France, de scolariser leurs enfants handicapés ou autistes. La prise en charge y est adaptée et reconnue. Certaines familles ont même déménagé dans le nord pour traverser la frontière plus facilement. C'est un reportage de Franck Hanson.
À la sortie de l'école La Goélette, ils sont plus de 90% d'élèves français, comme Ethan avec son bonnet Harry Potter.
C'est la fin, à mon cœur, on va retourner en France. C'est vraiment une bonne prise en charge.
Laetitia a fait le choix de quitter l'Isère pour son petit garçon autiste.
Il adore venir à l'école, personne ne les regarde de travers, franchement je regrette pas mon choix. Donc c'est l'institutrice à Ethan.
Il y a beaucoup de français ici madame?
Énormément. La Belgique, ils accompagnent mieux les enfants qu'en France. C'est encore trop fermé pour les enfants autistes, les enfants handicapés.
Tous les jours, ces mamans franchissent la frontière avec soulagement. En France, on la prenait pour une mauvaise mère, confie Ludivine.
Il y a des choses en France, mais il n'y a pas de place. C'est pas possible. Mais la Belgique, ils n'ont pas la même ouverture d'esprit. Et puis, ils s'adaptent à nos enfants. Il a gagné en autonomie. Maintenant, il parle, il nous regarde. Depuis cette année, je peux lui donner la main. Et nous, on revient de très, très loin. Pour Pavlé, c'était la meilleure solution.
Laetitia a dû arrêter de travailler pour s'occuper de son fils. Ses ressources restent limitées.
On est aidant familial. On a dû arrêter le travail pour s'occuper de notre enfant et on n'a aucun statut. Ça fait qu'on doit toujours mendier. Nous, on n'a rien demandé.
Le gouvernement cherche à limiter cet exil, mais les moyens manquent toujours, selon Claude Hoquet de l'Association des Papillons Blancs.
Les fonds qui sont aujourd'hui destinés à la prise en charge des personnes en Belgique, pourquoi ne pas les attribuer en France avec la création de dispositifs ou d'établissements? Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse et systématiquement tout arrêter et tout rapatrier.
Ces parents frontaliers ne regrettent pas leur choix de la Belgique, mais l'avenir de leurs enfants n'est pas pour autant acquis.
Un reportage signé Frank Hanson. Demain, les Lorrains tentés par l'Eldorado du Luxembourg. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur en France. La prostitution des mineurs. Il serait entre 10 et 15 000 à se prostituer dès l'âge de 14 ans, majorité des filles. Et les plaintes pour proxénétisme ont explosé, multipliées par 4 en moins de 10 ans. RTL a pu s'entretenir avec l'une de ces jeunes victimes, tombée ado dans la spirale de la prostitution. Témoignage rare et reportage à retrouver sur notre site internet et notre application RTL. RTL. Trafic SNCF très perturbé ce lundi dans le sud-ouest en raison d'une grève des aiguilleurs. La compagnie prévoit d'annuler 85% des TGV entre Paris et Bordeaux. La CGT Cheminot et l'UNSA, à l'origine de ce mouvement, réclament notamment une meilleure gestion de leur fin de carrière.
8h09, la disparition à 73 ans du créateur de mode Thierry Mugler.
Le couturier star de la mode dans les années 80 est décédé d'une mort naturelle, a expliqué son agent. Encore très actif, il devait annoncer de nouvelles collaborations cette semaine. Le football et la victoire sans appel du PSG hier soir 4-0 face à Reims, marqué par le premier but de Sergio Ramos sous les couleurs parisiennes. Et puis en tennis, Alizé Cornet s'est qualifiée cette nuit pour les quarts de finale à l'Open d'Australie en battant la Roumaine Simona Halep 6-4, 3-6, 6-4. C'est la première fois que la Française âgée de 32 ans atteint ce stade de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem.
Merci.